l'usine de rêve de l'univers, la Mecque du cinéma pour les uns, pour d'autres Babylone moderne, un Olympe peuplé d'êtres quasi divins aux yeux de millions d'admirateurs à travers le monde, a vu l'effet du scandale et de la calomnie, penché sur son berceau doré.
Le premier procès annulé pour vice de procédure, l'affaire fut envoyée devant la cour du magistrat Noble pour être enfin liquidée. Ce nouveau juge au nom symbolique accepta d'arrêter les poursuites en diffamation contre Confidential, et cela, comme il le déclara dans un communiqué à la presse, pour mettre un terme à l'embarras de l'industrie cinématographique. Resta l'accusation de publication de textes obscènes. Harrison fut tout de même déclaré coupable de cette infraction et dut payer une amende insignifiante de $10,000. Hollywood pouvait respirer, même si sa victoire ne parut pas très nette, et Harrison se retirait, milliardaire. Dans le sillon du procès, un autre drame. Howard Rushmore se tua avec sa femme dans un taxi new-yorkais. L'ex-rédacteur en chef de Confidential, qui témoigna pour l'État au procès contre son ancienne équipe de calomniateurs, avait perdu sur les deux tableaux. Depuis l'affaire, certaines conséquences purent être enregistrées. Les fans magazines, depuis quelque temps en perte de vitesse, adoptèrent la verdeur du style Confidential et promirent sur leur couverture toute une gamme de révélations sensationnelles, qui ne révélèrent pas grand-chose, dans l'espoir un peu tardif de rattraper du terrain. De plus, à Hollywood, le palace ciné Grumman's fit recette de façon assez particulière. Le balcon est devenu une sorte de curiosité touristique. On n'oubliera pas de sitôt les légendaires ébats de la rangée 35. Témoins des gloires hollywoodiennes où, depuis les années 20, les stars consacraient leur réputation en laissant leurs empreintes dans des salles de ciment rose, le Grumman's Chinese Theater, véritable cathédrale du star system, connaissait lui aussi le scandale. La religion de l'âge d'or aboutissait au ricanement de l'affaire Confidential. Les remous de l'affaire Confidential eurent à peine le temps de se dissiper et le pays de parler d'autre chose, que ce fut de nouveau le scandale. Ce fut le tour de la star Lana Turner qui, après 20 ans de carrière hollywoodienne parsemée d'esclandres, eut droit au scandale de sa vie qui, on le sentait, devait fatalement survenir et qui éclata en 1958, le Vendredi Saint. Tard dans la soirée, l'avocat des stars, Jerry Geisler, fut dérangé dans son sommeil par un coup de téléphone venant de 730 Bedford Drive, Beverly Hills. En effet, dans la grande maison de style colonial louée par la star connue jadis comme Sweeter Girl, un fâcheux problème s'était posé. Le boudoir rose se trouvait singulièrement encombré par un objet gênant, la dépouille mortelle encore tiède d'un nommé Johnny Stompanato, alias Johnny Valentine, gigolo gangster notoire, ex-callboy, ancien garde du corps du gangster homophile Mickey Cohen. Dans ses fonctions de callboy qui marquaient ses débuts à Hollywood, le beau Johnny avait vite creusé son chemin et devenait très recherché par toute une société de dames, de Zaza Gabor à June Allison, pour ses qualités exceptionnelles, un sexe de cuivre assez bas sur pattes, prenant ainsi la relève de Feu Bogart ou de Mature. Ses qualités lui valurent rapidement de la part de ses connaisseuses le sobriquet d'Oscar, faisant ainsi allusion à la célèbre récompense. Johnny s'assurait déjà d'une solide réputation de Pagani ou Paddock, quand callboy ingénieux, il avait lui-même téléphoné au numéro secret de Lana Turner, en suggérant à la star légèrement surprise une coucherie à l'aveuglette. Et la Turner, esselée et disponible depuis son divorce avec le Tarzan Lex Baker, son quatrième essai en matière de mari, alléchée en écoutant certaines descriptions physiques détaillées par la belle voix de l'inconnu, a accepté sur le champ ce rendez-vous. Ainsi commençait la fatale liaison. Au moins en ce qui concerne la jouissance physique, durant les 15 mois que devait durer leur ménage, Lana n'eut jamais à se plaindre. Johnny faisait bien son travail et de ce côté, pour une fois dans sa vie, Lana était comblée. Que Johnny ait de solides relations dans la pègre, Lana s'en fichait complètement. Avoir un amant vrai gangster avec son revolver sous son smoking n'était qu'un frisson en supplément. Et les frissons, Lana les a tous connus dans sa carrière hollywoodienne qui s'étale sur plus de 4 lustres. Starlette à 16 ans, déjà star à 17, la rondelette Julia Ann devenue Lana affichait vite son intérêt pour les hommes et elle devait en connaître toute une gamme. Ses maris, musiciens de swing célèbres, charmeurs professionnels, milliardaires, Tarzan, ses amants, playboy, fils à papa, vedettes, boulatinos qu'on ne comptait plus, et même des combinaisons plus intéressantes, celle du barman par exemple, partagée en sandwich avec sa copine également gourmande, Ava Gardner. Mariage et liaison ont été fréquemment parsemés de violences provoquées ou sollicitées. Lana fut jetée en bas d'un escalier par un de ses époux, boxée en public par un autre, arrosée de champagne au Sea Rose par un troisième. Avec ses amants, les aventures s'agrémentaient de prises de judo et de coups de poing. Et quand elle sortit, le visage caché derrière de sombres lunettes fumées, les cruelles langues précisaient qu'elle espérait camoufler un œil cerné. On dirait qu'elle aimait ça. Lana disait à son propre sujet « Je trouve les hommes terriblement excitants et la gonzesse qui le nie est une demoiselle anémique, une gouine ou une sainte. » Et cette excitation qui, la trentaine sonnée, était devenue pour elle une véritable nécessité, elle devait la mener à son paroxysme avec Johnny. Durant leur courte séparation, quand elle tournait en Angleterre « Another time, another place », ses lettres adressées à son amant témoignent du manque cruel de ses happy aches, ce mal exquis causé par le Don Juan trop doué. Ainsi, elle lui offrait son billet d'avion, un cadeau parmi d'autres, et le ménage interrompu s'établit de nouveau dans une grande maison louée à Londres, sur la ruelle des milliardaires. Mais Johnny, sûr maintenant de son pouvoir, qui enchaînait Lana au bas-ventre comme la docile héroïne d'Histoire d'eau, devenait de plus en plus exigeant. « Quand je dis hop, tu hopperas. Quand je dis saute, tu sauteras », cria-t-il. Et en plus d'une obéissance absolue, il voulait exiger le montant de ses cachets. Pendant une dispute au ton élevé, il menaçait la lanalure avec un rasoir à lame ouverte, hurlant contre sa figure « Je te mutilerai, je te rendrai infirme, de façon que tu sois une chose épouvantable, qui doivent toujours se cacher. » Et la star de Johnny, roi des gangsters, avait, pour la première fois peut-être, vraiment peur et commençait à crier de toutes ses forces. Cette séquence réaliste semblait plus qu'une mise en scène complaisamment établie entre maître et esclave pour attirer un feu masochiste, et les discrets domestiques britanniques mis en émoi téléphonaient au studio de Lana, qui s'empressa, avec le concours de Scotland Yard, de faire expulser de la pudique Albion l'énergumène. Dès que son bourreau fut loin, le vrai tourment de Lana recommença. Elle ressentit cruellement l'absence de son Jules, de son Oscar, et ses lettres frénétiquement écrites redemandèrent ses caresses, je cite, « si féroces qu'elles me font mal, c'est beau pourtant si terrible, je suis ta gonzesse et j'ai besoin de toi, mon homme. » La liaison ne tarda pas à se rétablir au Mexique, à l'idyllique Acapulco, où le couple se bronzait le jour sur la plage et troublait la nuit le repos de ses voisins de chambre à l'hôtel Villarreal. Puis c'était l'entrée à Hollywood, où une fille de 14 ans les attendait à l'aérogare. Cheryl, enfant de Lana et Steve Crane, teenager désaxé et quelque peu détraqué, comme la plupart des rejetons de l'usine de rêve. Cheryl avait déjà défrayé la chronique l'année précédente, en fuyant son pensionnat et en errant la nuit dans les quartiers les plus sordides de Los Angeles, cherchant la vraie vie, paraît-il.